EducPop.
L'éducation populaire va-t-elle changer le monde ?
Juliette et Valentine vous emmènent faire un tour d'horizon de ces pratiques collectives d'émancipation et de transformation sociale.
Une émission mensuelle coproduite par CEP et Radio BLV.
Je suis Juliette et je suis avec Valou. Bonjour Valou.
Bonjour.
Et on est toutes les deux de l'association CEP comme les champignons. CEP, c'est une association d'éducation populaire à Valence qui propose des ateliers de quelques heures, des stages de plusieurs jours, des événements pour se rencontrer et de l'accompagnement personnalisé pour les initiatives d'EducPop sur le territoire. Un peu comme le rhizome des champignons qui nourrit la forêt, CEP, c'est un terreau dans lequel on a envie que les gens viennent puiser pour devenir des agitateurs et agitatrices sociales. On y découvre des enjeux politiques et des thématiques de société. On s'y familiarise avec des outils et des méthodes d'éducation populaire, on rencontre d'autres personnes curieuses et engagées, et on y crée des occasions de passer à l'action et de faire ensemble.
Dans cette perspective, nous sommes avec vous une fois par mois pendant 30 minutes pour vous partager notre passion pour l'éducation populaire. Nous vous proposons un tour d'horizon de ce qui constitue, selon nous, l'EducPop et nous découvrons ensemble des sujets, des outils et des invités au fil des émissions. Bienvenue dans EducPop, l'éducation populaire va-t-elle changer le monde ? Alors aujourd'hui, on a envie de vous parler d'écologie, de lutte contre le changement climatique et de transformation de la société. Juliette et moi, on a fait nos premières années de militantisme autour de la cause écolo, de l'urgence à agir et à s'organiser contre les puissances capitalistes qui nous mènent tout droit dans la sauce. Comme beaucoup de personnes de notre génération et de nos profils sociologiques, c'est cette lutte qui a structuré notre formation politique et notre compréhension du monde aux côtés du féminisme, quand même, qu'il faut le dire, c'est important pour nous. Moi, perso, l'écologie, ça a été un levier énorme de compréhension de la société. Ça a été mon entrée pour comprendre, rien qu'on prend, par exemple, les chaînes de production industrielle, et si on capte que ça va de l'extraction minière à la logistique Amazon, déjà, ça donne un tour d'horizon assez large de comment s'organise la société et ses inégalités. Ça m'a permis aussi de capter et de m'éloigner des croyances hors sol de nos dirigeants politiques qui visent une croissance infinie dans un monde aux ressources finies, qu'ils le veuillent ou non. Et du coup, ça m'a aidé à prendre du recul sur le fait qu'ils avaient raison. Et en fait, ils n'ont pas tellement raison. En plus, ça m'a aidé du coup à me demander qui va payer le prix de ce système hallucinant. Ça a questionné les inégalités sociales vis-à-vis du réchauffement climatique, c'est-à-dire qui pollue et qui est pollué en première ligne. Et remonter aussi vers l'origine coloniale européenne de l'industrie ultra polluante qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Donc ça m'a ouvert à tous ces sujets, mais là je viens de dire plein de gros mots très politiques et lointains qui me font aussi dire que j'ai pas vraiment actualisé mon logiciel écolo avec les pratiques et les postures de l'éducation populaire. Donc notre invité du jour essaye justement de faire de l'EducPop sur le changement climatique pour faire bouger les gens, les communautés, les organisations dans leurs pratiques quotidiennes. Donc pour parler de ce sujet, nous accueillons donc Laure Charpentier. Bonjour Laure.
Bonjour.
Donc toi, tu animes et tu diffuses l'approche des conversations carbone. Tu vas nous décrire ce que c'est. En tout cas, sur le site de ton association Carbone Essence, je lis l'envie de faire face au changement climatique sans devenir dingue et en se faisant plaisir.
Exactement.
Ça fait écho chez nous quand même, avec de la joie militante et avec l'envie de faire ensemble.
Oui.
Et je vous cite encore, pour rentrer dans le sujet, les conversations carbone offrent un espace d'exploration des émotions liées au changement climatique et au renoncement volontaire à un certain mode de vie, de façon à inscrire le changement dans la durée.
Ça, les émotions, on adore ici.
Ah, excellent.
Et on croit beaucoup que passer par là, ça permet d'embarquer vraiment les gens dans la durée. Donc on est très contents de t'accueillir dans cette émission. Donc Laure, tu fais partie des gens qui ont développé la pratique des conversations carbone en France. Comment toi, t'es arrivée à l'engagement face au changement climatique ? Comment c'est arrivé dans ta vie ?
J'ai aimé entendre ton petit parcours. Et moi, j'ai un peu plus d'années derrière moi, puisque j'ai 55 ans. Et j'étais pas du tout sensible à la question écolo jusqu'à la trentaine, quand j'ai eu mon premier garçon. Donc, une carrière, bien des études, tout ce qu'il faut. Et puis, en ayant ce petit bonhomme, j'ai commencé à déconstruire un peu ce que je pensais être la donne. La normalité. Et puis, à m'intéresser notamment à l'alimentation, aux AMAP. J'étais en Alsace à ce moment-là. Et j'ai découvert les alternatives alimentaires et tout le réseau alternatif qui était derrière. Et donc, j'ai compris que le système dominant était juste un système dominant.
De nous empoisonner.
En tout cas, n'était pas le seul et l'unique. Et qu'il pouvait y avoir autre chose. Et donc, à partir de là, alors que je travaillais pour des multinationales en journée et que je me sentais très vivante à la MAP le soir, j'ai décidé de reprendre des études pour faire éco quelque chose. Voilà. Et donc, on est 15 ans plus tard. Et puis, on est plus que ça. On est 25 ans plus tard, mon Dieu. Et voilà. Et donc, j'ai travaillé 5 ans pour les collectivités locales sur leur politique énergie-climat. Et puis, une dizaine d'années, notamment sur l'accompagnement au changement pour la transition écologique. Okay. Un mégawatt.
Ok. Et alors, comment tu as connu la pratique conversation carbone et comment tu t'es formée à ça ?
Eh bien, les conversations carbone sont arrivées sur le chemin. Alors que j'étais en territoire, en Biovallée, donc pas très loin de Valence, on est le long de la rivière Drôme, une proposition qui nous était arrivée par Négawatt d'expérimenter cette méthode d'accompagnement au changement vers un mode de vie sobre en carbone, et comme tu l'as dit, sans devenir dingue et en se faisant plaisir. Donc une expérience qui arrivait, je leur dirais peut-être, les origines du Royaume-Uni, en passant par la Suisse.
Okay.
Et que nous avons expérimenté un petit groupe de 9 en Biovallée.
Entre vous d'abord ?
Entre nous, moi, oui, essayer de comprendre et de vivre cette expérience qui avait l'air d'être un petit peu différente des ateliers classiques qui commençaient à se développer à cette époque-là. Et puis, vu l'effet que ça nous a fait, on s'est dit « Waouh, qu'est-ce qui nous est arrivé là ? Qu'est-ce qui s'est passé en fait ?» Et pour ma part, c'était vraiment le passage d'une approche de l'écologie par la culpabilisation, enfin moi, un sentiment de culpabilité de devoir faire des choses, etc., à un plaisir de l'action, et puis un accueil de tout ce qui me fait moi, mes émotions, mes convictions. Voilà, donc quelque chose qui a vraiment mis du positif dans cette approche de l'écologie. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à en faire au-delà de notre petit groupe.
Ouais. Okay.
Et on est parti comme ça. Sur les 9, on est 6 à être partis dans l'aventure Conversation Carbone.
Ok. Et donc après, tu t'es formée à l'outil ?
Alors donc oui, pour reprendre l'historique, c'est une méthode qui a été développée par une psychothérapeute et un ingénieur environnement du Royaume-Uni.
Ok.
Donc c'est intéressant parce qu'il y a vraiment les deux polarités, on va dire la tête, le cœur, qui est vraiment partie intégrante de la méthode. Ils sont venus nous former après qu'on ait pu expérimenter la méthode pour qu'on soit nous-mêmes en capacité de faire des groupes et ensuite qu'on soit en capacité de former d'autres à proposer ces espaces si particuliers que sont les conversations carbone. Donc aujourd'hui, on est 6 formateurs, formatrices qui pouvons transmettre la méthode à des facilitateurs, on les appelle comme ça, qui vont animer les groupes.
Ok. Et alors, est-ce que tu peux nous décrire comment ça se passe ? De quoi ça s'agit ?
Quoi ? C'est quoi ces
conversations ? C'est quoi cette histoire ?
Alors, conversation au pluriel, carbone sans S. L'idée, c'est vraiment de soutenir l'individu dans une logique de petit groupe de soutien. Et ce petit groupe de 6 à 10 personnes va se retrouver sur 4 mois, 6 fois 2 heures.
Ok.
6 fois 2 heures avec un binôme de facilitateurs formés à la méthode, les outils de la méthode, pour un parcours qui va lui permettre de permettre à chaque participant de balayer tous les domaines qui constituent son empreinte carbone domestique.
Ok.
L'énergie, le logement, l'alimentation, les transports, la consommation, l'eau. Et de le faire avec une approche tête-cœur-corps.
Ok.
Voilà. Qu'est-ce que je sais ? Qu'est-ce que j'apprends sur le sujet ? Comment je me sens par rapport à la thématique ? Qu'est-ce qui me met en mouvement ? Qu'est-ce qui me freine ? Tout ça peut être accueilli. Et puis aussi, ça c'est pour la partie cœur. Et puis la partie corps, c'est des premiers passages à l'action, des expérimentations. Donc la méthode, elle embarque tout ça.
Ok, trop bien. Ok. En traduisant tout de suite vers un passage à l'action.
Avant d'en savoir plus, on va faire une petite pause musicale. Laure, tu nous as proposé d'écouter La timidité des arbres de la Maison Tellier et Karen Lano. On va écouter ça tout de suite.
Certains soirs où j'avais pris le temps qu'il fallait, ma calèche emmenait au grand galop. Mes amis des cadets, le printemps arrivait, justement il faisait déjà bien chaud. Rendez-vous près du frêne, l'un de vous prendra les rênes. Après le chêne, à le de la longue. la pleine lune m'inonde de sa lumière bleue. Après bien des virages, dépassant les marécages, le bruyant équipage me dépose. On me tape dans le dos, on flatte les chevaux, on me dit ces quatre mots. Cette fois tu oses. Colline des deux amants, c'est là que normalement elle m'attend sous un charme. J'éprouve des sentiments, mais j'éprouve également la timidité des arbres. Timidité des arbres. Des arbres, des arbres. Timidité des arbres.
Me reviennent après coup son chapeau, ses yeux doux, une branche de mousse en boutonnière. Souffle chaud dans le cou, regard devenu fou, comme si j'avais vu le loup en sainte tanière. Il m'a dit juste un baiser, je n'ai plus que refuser.
Elle n'a pas voulu de moi. Elle n'a pas voulu se promener dans les bois. Et sous les branches du saule, sous les branches du saule, pas de main qui se frôle, de main qui se frôle. Sous les branches du cèdre, pas de main qui se serre. Elle n'a pas voulu de moi. Timidité des arbres. Des arbres, des arbres. Timidité des arbres. Timidité des arbres. Des arbres, des arbres. Timidité des arbres.
Nous sommes de retour dans l'émission Éduque Pop. L'éducation populaire va-t-elle changer le monde ?
Alors Laure, tu avais envie de nous faire essayer quelques questions type qu'une conversation carbone peut faire amener.
Une proposition pour peut-être permettre aussi à nos auditeurs de goûter la dimension cœur. Je parlais de tête, cœur, corps tout à l'heure dans l'approche conversation carbone. Le cœur, c'est mieux de le ressentir que d'en parler. Et c'était ça la proposition.
Allez.
Vous êtes partante ?
Ouais.
Et bien pour vous et puis pour les auditeurs, ma proposition c'est d'abord de se poser tranquillement dans son siège, si vous êtes en voiture de vous arrêter sur le bas-côté, si vous êtes dans votre canapé de vous relaxer, de tranquillement fermer les yeux et puis de vous laisser guider par ma voix, ça va durer 2 minutes. Je vous propose de rappeler à votre souvenir un repas mémorable. Un repas dont vous gardez un fort souvenir, soit positif ou négatif, en tout cas un repas qui vous a marqué. Vous l'avez ce repas ?
Oui.
Essayez de vous rappeler le lieu. Où est-ce que c'était ? Quel était le décor de ce repas ? À quel moment de la journée était-ce ? Était-ce un midi, un soir ? avec qui étiez-vous ? Essayez de vous rappeler aussi les plats, les saveurs qui vous sont restées. Et puis, quelle était l'ambiance en fait ? Comment vous sentiez-vous ? Je vous laisse quelques secondes pour vous immerger dans ce souvenir de ce repas mémorable. Et avant de revenir ensemble, essayez d'attraper deux mots qui décrivent pour vous ce souvenir, ce repas mémorable. Et quand vous les avez, revenez ici maintenant. Et puis je vais vous demander, Juliette et Valentine, vos deux mots, qu'est-ce que vous avez récolté là de ce petit visu ?
Eh bien moi je dirais rustique et chaleureux.
Rustique et chaleureux. Et pour toi, Valentine ?
Moi, je dirais présence et chaleur aussi.
Présence et chaleur. Alors, il ne me semble pas que vous m'ayez parlé de choucroute, de glucides, de protéines et de gaz à effet de serre.
Mais vous voyez, ça illustre bien quand on le fait dans un grand groupe.
Il y a plein de choses qui remontent, qui sont plutôt de l'ordre du souvenir émotionnel. Alors, imaginez que je sois un petit peu en charge de vous accompagner sur des évolutions de vos pratiques alimentaires. Et que j'arrive avec le poids en carbone de la viande, les ratios glucides, protéines, lipides, etc. Je passerai à côté de quelque chose, en fait. Parce que l'alimentation, ben, ça embarque notre culture, nos habitudes alimentaires, notre histoire familiale, notre rapport au corps, nos origines. Et que tout ça, c'est contenu dans une pratique quotidienne, des habitudes d'alimentation. Et que c'est bien de laisser de l'espace à ça aussi, pour que tout changement s'inscrive dans quelque chose qui ressemble à qui on est. Et voilà, c'était ça la petite expérience, permettre de goûter de l'intérieur. On va beaucoup faire ça en conversation carbone, pas que ça, mais il y a de l'espace pour que justement chacun puisse un peu reconnecter à ce qui compte pour lui, ce qui compte pour elle, et ce qui fait qu'il y aura du plaisir dans le changement. Et ça, c'est très personnel.
Et qu'on peut trouver de la chaleur dans un plat végétarien. Enfin, qu'au final, c'est pas tellement ce qu'il y a dans l'assiette qui nous nourrit que le moment qu'on passe, etc. Quoi.
Mais en tout cas, ça fait partie de l'équation.
Mmh.
Et que ce qu'une maman donne en goûter à ses enfants pour la récré, eh ben, ça va embarquer aussi l'appartenance sociale, comment elle pense que ses enfants vont être vus à l'école dans les goûters qui se comparent. Enfin, il y a tout ça qui est embarqué.
Et moi, je me demandais quel est l'objectif pour vous, pour les participants. Et enfin, j'imagine que vous voulez créer du changement dans les habitudes. Comment vous arrivez aussi, entre guillemets, à le mesurer, ce changement ? Je dis ça parce que pour nous, dans notre asso d'EducPop, on a vraiment du mal à mesurer ce qu'on provoque dans nos ateliers. Et on sait que c'est du temps très long. Est-ce que vous avez des méthodes pour...
Oui, alors c'est une excellente question parce qu'effectivement, le changement de comportement, c'est pas magique, c'est pas instantané. Nous, ce qu'on cherche, c'est à créer des conditions pour que chacun change dans la durée et dans le plaisir. Et si c'est dans le plaisir, ça va être quelque chose de durable. Alors, pour le mesurer, il y a deux choses. Il y a l'objectivation de l'empreinte carbone domestique. Donc ça, c'est la partie tête. On propose aux participants en conversation carbone de mesurer leur empreinte carbone. Donc, effectivement, d'observer, d'avoir des données objectives sur leur transport, sur leur consommation énergétique, sur leurs habitudes alimentaires, etc. Ça, c'est la partie, on va dire, rationnelle de mesure de l'impact avant-après. Et on sait aussi que sur cet espace de 4 mois du parcours conversation carbone, c'est pas seulement là qu'on se pose produire les changements, c'est aussi 6 mois, 1 an après. Et puis, on a fait, en fait, parce qu'on avait cette question de la mesure d'impact, on a demandé à des scientifiques d'étudier, en fait, le processus conversation carbone, ce que ça permettait, les limites aussi. Et donc, on a une étude scientifique qui est d'ailleurs disponible en ligne sur le site de l'association Negawatt et qui nous éclaire beaucoup sur ce qu'est le processus de changement. Pour changer, j'ai besoin de comprendre, mais savoir ne suffit pas au changement. J'ai besoin aussi de le rapprocher de justement mes émotions, mes valeurs, etc. J'ai besoin ensuite, lorsque ce changement il fait du sens pour moi, d'être, me sentir capable de changer. Donc, c'est motivation et sentiment de capacité qui vont pouvoir permettre le premier passage à l'action. Et le premier passage à l'action, c'est juste le test. C'est pas encore l'installation de l'habitude durable. Donc après, il y a toute une phase de maintien et d'accompagnement. Et là, le groupe est vraiment important pour soutenir le maintien. Et avant que ça devienne une habitude, parce qu'une habitude, c'est super pratique. Ça veut dire qu'on a moins de charge mentale, qu'on fait ça un peu instinctivement. Et là, l'habitude s'installe durablement. Donc, les scientifiques ont mesuré à quelles étapes du processus de changement, qui est quelque chose qui est étudié scientifiquement, les conversations carbone étaient aidantes.
Et les différentes marches
Et les différentes marches. Et en fait, on peut être... Chaque individu peut être sur une thématique, même sur une pratique, juste à l'étape de découverte, ou alors en étape de maintien, ou en phase de test, et on n'a pas les mêmes besoins à ce moment-là. On n'a pas besoin de parler de ses émotions, de lire des documents, de faire des relevés, d'expérimenter, de revenir sur les difficultés.
Voilà. Oui, c'est pas les mêmes leviers à activer.
Pas les mêmes leviers à activer.
Ok. Alors moi, je lis dans ta présentation que tu aimes particulièrement faire le lien entre changement structurel et changement individuel. C'est forcément quelque chose qui nous intéresse ici. Comment, dans les conversations carbone, il y a la question de la responsabilité politique et économique du changement climatique qui est abordée. Je veux dire par là, est-ce que dans vos modules aussi tête, cœur, corps, il y a un peu de contenu aussi de la responsabilité politique de la situation dans laquelle on est, pour que dans les passages à l'action, il y ait aussi cette entrée-là qui soit proposée?
C'est un vrai sujet, puisque les conversations carbone accompagnent le changement individuel dans le périmètre de la vie quotidienne, là où chacun a prise. Mais en conscience que ça s'inscrit dans un système beaucoup plus large. Ouais. Donc à la fois, sur chacune des thématiques, on explique que, par exemple, la place de la voiture, ça a été une construction sur plusieurs décennies, et que ce n'est pas individuellement qu'on va pouvoir révolutionner le système. Donc comment est-ce que, toutes choses égales par ailleurs, je peux, moi, individuellement, trouver mon style, ma voix pour commencer à amorcer des changements. Donc, il y a des documents, des supports qui apportent un petit peu cette vision d'ensemble. Et puis, la manière de diffuser les conversations carbone, en fait, c'est là, et je dézoome un peu de la vision du participant, c'est comment on l'a proposé, Conversation Carbone France, comment on l'a proposé avec Negawatt, pour que ça s'inscrive dans des changements plus structurels. Et bien, c'est tout simplement en travaillant avec les collectivités locales, avec l'ADEME, avec des entreprises, pour que ces groupes-là se tiennent au sein de structures associatives, entreprises, collectivités, et puis permettent d'irriguer aussi le fonctionnement de la structure à ces endroits-là. Donc, le plus gros projet de cette nature-là, ça a été toute la région Centre-Val de Loire, avec l'ADEME Centre-Val de Loire. Ils ont eu des financements par l'Europe pour pouvoir former 200 facilitateurs dans l'ensemble de 18 territoires soutenus par leur projet.
Et passer à l'échelle, quoi, pour vraiment faire bouger la société, les organisations.
Voilà, et considérer que c'est une brique, le changement individuel, quand il est vécu dans un espace où il y a des interactions sociales un peu plus larges, qui peut contribuer. Mais ce n'est pas le seul levier, c'est un changement systémique, hein, donc on est d'accord, ça doit venir de partout. Mais ça peut contribuer à faire autrement, et faire ensemble autrement. Et l'expérience vécue dans les conversations carbone, c'est quand même une expérience d'intelligence collective.
Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est les gens font un voyage personnel, mais dans un groupe, et j'imagine beaucoup influencés, irrigués par le groupe, etc. Quoi.
Et en tout cas,
ça peut donner des liens qui continuent par la suite.
Voilà. Comme par exemple dans le CHU, vous avez des infirmières qui, dans l'espace de leur temps de travail, peuvent se poser 2 heures et puis vivre des interactions personnelles. Mais elles ne vont pas communiquer pareil après. Dans leurs interactions professionnelles également.
Moi, j'ai une question. Je crois que j'aurais peur, à votre place, que les collectivités se déchargent un peu sur ces initiatives individuelles plutôt que, je ne sais pas, je prends l'exemple du vélo, par exemple. Moi, j'utilise une voiture, je viens de la campagne. Je n'ai vraiment pas de scrupules à utiliser la voiture. Pour moi, c'est vraiment symbole de liberté. Ça me permet de me sentir libre. Là où je sais qu'il faudrait que j'utilise davantage le vélo, mais déjà, je n'ai pas toujours l'énergie et le temps de faire des trajets à vélo plutôt qu'en voiture. Et comment on fait pour que les collectivités, plutôt que de dire aux gens de changer, de prendre leur vélo, elles mettent en place des transports en commun pour tout le monde, quoi. Parce que je me dis aussi, il y a une question d'inégalité économique, que tout le monde peut pas se permettre, en fait, d'acheter les énormes vélos cargo qui coûtent une blinde pour transporter leurs enfants à l'école ou des trucs comme ça, quoi.
C'est une vraie question, hein, l'articulation entre les politiques publiques territoriales, les politiques publiques nationales, internationales, et puis son propre changement individuel. Et très souvent, enfin, ce qu'on essaye en conversation carbone, c'est d'être à la fois en conscience que chaque acteur doit faire sa part, mais éviter d'attendre que l'autre le fasse avant de bouger. Mmh. Et dire, justement, moi, individu, les conversations carbone travaillent sur, justement, le changement individuel. Et Anegawatt... Et d'autres ONG et les politiques publiques travaillent aussi à d'autres leviers.
Oui, c'est complémentaire, quoi.
C'est très complémentaire. Mmh. Et je me souviens d'un élu qui nous disait, vous savez, nous, on sait faire des pistes cyclables, mais on ne sait pas mettre les gens sur les vélos. Hein. Donc, en fait, il y a bien quelque chose qui a articulé entre... Et c'est ce qu'on a essayé de faire en disant conversation carbone, ça doit être une démarche qui ne soit pas tankée du côté militant, mais bien articulée avec les collectivités, les pouvoirs publics. Et c'est pour ça que les soutiens de l'ADEME et des collectivités sont absolument primordiaux.
Mmh. Et ben ça nous amène à la fin de cet échange. Tu me disais au téléphone que vous n'arriviez plus trop à former des nouveaux facilitateurs, facilitatrices par manque de financement. Est-ce que tu veux nous dire un mot là-dessus ?
Oui, y a une vraie difficulté là. 2026, c'est un peu backlash écologique. On va dire les collectivités qui sont aussi dans des finances très contraintes. Donc, effectivement, on observe qu'il y a un resserrement des moyens mis à disposition de ces accompagnements longs, qui ne sont pas à effet immédiat, qui travaillent dans les transformations en profondeur. Donc, je pense que ça, on le partage avec toutes vos approches d'EducPop.
Oui, tout à fait.
Et en même temps, il y a des pépites. Donc, par exemple, l'ADEME Nouvelle-Aquitaine nous finance pour adapter les conversations carbone à un public d'élus.
Okay.
Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que proposer des espaces d'une nature que les élus n'ont pas l'habitude de trouver en soutien, proposer dans le cadre de l'ADEME, pour eux-mêmes pouvoir se poser sur leur propre pratique et comment ça joue dans leur manière d'exercer leur mandat.
Et remettre des émotions dans la politique.
Et remettre des émotions dans la politique. Et puis considérer qu'eux-mêmes sont des individus de tête, cœur, corps. Voilà.
Ok, merci beaucoup Laure pour cette présentation.
Avec grand plaisir, merci de votre accueil.
Avec plaisir. Et comme toujours, on va finir cette émission avec le calendrier de CEP, surtout qu'on a beaucoup de formations de programmées d'ici l'été. La première à venir, c'est vendredi 29 mai, on va faire une formation qui s'appelle « Petit mais puissant ». Pour savoir par où commencer pour changer le monde, ce sera une journée entière à la MPT de Chauny à Bourg-lès-Valence. C'est gratuit, il y a un formulaire d'inscription sur le site internet de CEP, donc cep-asso.fr. Et cette formation, c'est un premier pas pour celles et ceux qui veulent comprendre les injustices et développer une lecture critique du monde. On va se pencher sur plein d'enjeux de société actuelle. La montée du fascisme, la recrudescence des propos et des violences racistes, la menace sur les droits des femmes, des personnes LGBTQIA+, et des personnes en situation de handicap, la diminution du pouvoir d'achat et du niveau de vie d'une bonne partie de la population. La formation propose d'identifier vos valeurs et vos convictions, puis de les relier à des actions concrètes et accessibles pour faire bouger les choses et transformer la société ensemble. Donc ça, c'est le 29 mai, formation Petit mais puissant. Ensuite, en juin, le mardi, premier mardi du mois, comme tous les mois, il y aura le Café des Possibles. Rendez-vous à l'Art des Choix de Chauny pour un apéro engagement où, ce mois-ci, nous découvrirons deux associations, La Cueillette et le Moulin Urbain. Donc c'est l'occasion de prendre un verre et de découvrir les actions de ces deux associations. Ensuite, le vendredi 12 juin, il y aura une deuxième formation qui s'appelle La Rébellion, ça s'apprend. Toujours une journée, toujours à la MPT de Chauny, toujours gratuit. Et cette fois, on réfléchira à comment lutter sans se cramer. L'idée, c'est d'acquérir les compétences nécessaires pour agir sur une cause qui nous appelle et de se sentir équipé pour passer à l'action. La semaine d'après, le vendredi 19 juin, on fera une formation sur politiser le secteur de la santé. Une journée à la MPT de Chauny, cette fois le tarif est entre 100 et 130 euros. Et l'idée, c'est de s'intéresser au fait que le secteur de la santé est traversé par tout un tas d'oppressions systémiques qui influencent les pratiques, les institutions et les relations soignants-soignés, que la neutralité n'est jamais garante de bien-traitance, et du coup, comment on fait pour politiser le soin et pour finalement mieux soigner. Voilà notre programme pour le mois qui vient, c'est chargé, vous avez plein d'infos sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous inscrire et à nous poser des questions si besoin.
On se retrouve le mois prochain pour la dernière émission de la saison. C'était Juliette Evalou avec Laure dans l'émission EducPop.
EducPop.
L'éducation populaire va-t-elle changer le monde ?
Juliette et Valentine vous emmènent faire un tour d'horizon de ces pratiques collectives d'émancipation et de transformation sociale.
Une émission mensuelle coproduite par CEP et Radio BLV.